Tout d'abord, une petite explication sur les documents que vous avez récupérés en entrant. Donc, j'avais oublié de vous dire que le poli est en 2 tomes. Donc, ce que vous avez perçu au début du cours, c'était le 1er tome, qui est composé de 9 chapitres. Et là, ce que vous venez de recevoir, c'est le 2e tome, qui est composé d'un chapitre unique et qui fait 8 pages. Donc, c'est l'ancien chapitre 10 du poli. Jusqu'à il y a quelques années, c'est ce qui s'appelait le chapitre 10 du poli. Et quand le poli est devenu un livre, beaucoup de personnes m'ont fait la remarque que ce chapitre était un peu déconnecté du reste du poli. Donc, je l'ai supprimé du livre et du coup, vous avez un bonus qui est ce chapitre de 8 pages. Alors, effectivement, la question qu'on va discuter aujourd'hui, le tri est un petit peu déconnecté des principes des langages de programmation qu'on a discuté dans les autres amphis. Et c'est un peu parce que, en deuxième année, mes collègues refusent de faire le tri dans le grand cours d'algorithmique qu'on est plus ou moins tenu de le faire en première année. Cela dit, c'est un très beau chapitre d'algorithmique. Et en particulier, c'est la première fois qu'on va voir ensemble un résultat négatif. Et donc, il n'y a pas énormément de résultats négatifs qu'on peut voir en première année d'informatique à l'école. Et donc, c'est quasiment le seul qu'on va voir. Donc, rien que pour ça, ça justifie qu'on en parle. Alors, également, ce chapitre n'est pas au programme de la PAL. Les devoirs de vacances bien faits sont la clé d'une rentrée réussie. Et l'année prochaine est une année extrêmement importante pour vous, en particulier parce qu'à la fin de l'année, on va vous demander de faire un certain nombre de choix et que ce sont différents domaines. Et c'est l'année que, en général, les élèves de l'école aiment le moins, c'est-à-dire c'est beaucoup d'élèves se plaignent d'avoir à avoir encore à apprendre et des maths, et de la physique, et de la chimie, et de la mécanique, etc. C'est la deuxième année, c'est l'année qui, 20 ans après être sortie de l'école, c'est finalement celle qui vous a donné une culture de la molécule d'eau, et à ce moment-là, on s'aperçoit que il y a des questions qui se posent, qui restent de votre troisième année. Ce stage a une grande importance puisque, encore une fois, quelle que soit la carrière que vous ferez en sortant de l'école, eh bien, vous serez amené à travailler dans un monde dans lequel la technologie évolue relativement rapidement. Bac plus 6 à la fin de la carrière, ça s'appelle le cycle L. Un diplôme de niveau Bac plus 3, vous en êtes sans doute rendu compte, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5, donc c'est un diplôme de master. Et dans votre cursus, les 2 premières années à l'école et la prépa forment ce que, en Europe, on appelle la licence, le cycle L. Et donc, le programme d'approfondissement, le stage et la 4e année, c'est-à-dire la 3e et la 4e année d'école, constituent le cycle M, le cycle de master. Et donc, c'est un type d'enseignement qui est différent de celui que vous avez reçu jusqu'à présent. Jusqu'à présent et l'année prochaine, vous êtes dans une idée d'une formation universelle. Et à partir du niveau master, vous devez être dans une formation beaucoup plus spécialisée. Alors, les programmes d'approfondissement dans lesquels le département d'informatique intervient, il y en a 2 qui sont essentiellement de l'informatique. Alors, le premier s'appelle informatique et le deuxième ingénierie des systèmes complexes. Et la différence entre ces 2 programmes d'approfondissement, et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'amphi 0, je vous avais dit, il y a 2 types d'ingénieurs en informatique ou 2 types de chercheurs en informatique. Il y a, mettons, les entreprises d'informatique en elles-mêmes, celles qui fabriquent des logiciels, du matériel, etc. Et il y a toutes les entreprises dont le cœur de métier n'est pas l'informatique, c'est des entreprises qui fabriquent des avions, qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des comptes en banque, enfin qui vendent des services bancaires, et qui ont une problématique d'informatique. Cette problématique, elle arrive de 2 manières, à travers les systèmes embarqués, c'est-à-dire les systèmes informatiques que vous trouvez dans les avions, dans les voitures, etc., et à travers les systèmes d'information, c'est-à-dire les ordinateurs qui, dans toutes les entreprises, permettent de stocker et de communiquer, de stocker de l'information et de communiquer de l'information d'un bout à l'autre de l'entreprise. Donc ça, ce sont les 2 grandes thématiques du programme d'approfondissement ingénierie des systèmes complexes. Et à l'inverse, pour les problématiques plus informaticiennes, il y a 5 thématiques à l'intérieur de ce programme d'approfondissement. Algorithmique et optimisation, qualité du logiciel, donc ça c'est 2 thématiques que vous comprenez bien, Algorithmique, c'est tout ce qui concerne les algorithmes. Qualité du logiciel, c'est tout ce qui concerne les langages de programmation et en particulier la manière d'écrire des programmes sans bug, d'écrire des programmes sûrs. Je vous rappelle qu'il y a vraiment deux types de programmes. Il y a ceux où quand il y a un bug, on ferme la fenêtre, on la rouvre, éventuellement on reboot la machine. Et puis il y a ceux où un avion s'écrase. Et donc les questions de qualité du logiciel se posent de manière complètement différente quand il y a des vies humaines dans un moyen de transport, dans une centrale nucléaire, et pire quand il y a de grosses sommes d'argent en jeu, comme dans de l'informatique bancaire, où à ce moment-là, les bugs sont absolument impossibles, et ceux où, après tout, quand il y a un bug, c'est pas très grave, on relance le système et ça marche. Donc ça, c'est la thématique qualité du logiciel. Il y a une thématique sur les réseaux, il y a une thématique sur les images, et il y a une thématique qui s'appelle protection de l'information, qui est la thématique où qu'on appelait dans le temps cryptographie. Cryptologie, c'est-à-dire c'est la question de comment coder et décoder de l'information. Donc ça, c'est des techniques très anciennes qui sont antérieures à l'informatique. Et en grande partie, l'informatique a été inventée pour ça, pour coder et décoder des messages. Mais aujourd'hui, c'est devenu une problématique un petit peu plus générale, qui est la problématique de la protection de l'information. Donc ça, ce sont les deux programmes d'approfondissement à informatique dominante. Et il y a deux programmes qui sont aux interfaces. Il y a un programme qui s'appelle Electrical Engineering et qui est centré autour de l'objet physique qui calcule, c'est-à-dire l'ordinateur, le réseau, et ces objets ont des propriétés physiques assez différentes des objets physiques comme une mascotte au bout d'un ressort, par exemple, et c'est des objets qui sont beaucoup plus complexes, c'est des objets qui sont artificiels, mais qui, malgré tout, vérifient les mêmes propriétés physiques que d'autres objets. Par exemple, si vous prenez un ordinateur et que vous le jetez du haut de la tour de Pise, eh bien, il va tomber exactement à la même vitesse que si vous prenez un objet physique comme ce trousseau de clé. D'accord ? Bien sûr, si vous avez fait le vide autour de la tour de Pise. Et donc ça, c'est l'interface entre informatique et physique, et qui est centrée ici autour de l'objet calculant. Et puis, il y a une interface entre biologie et informatique qui nous a amené à proposer un programme d'approfondissement complet en bioinformatique. Alors, il faut faire attention ici, vous pouvez peut-être vous dire à juste titre qu'il est un peu tôt pour ne faire que de la bioinformatique, et c'est exact. Et donc, ce programme de bioinformatique vous propose des cours d'informatique, des cours de biologie et des cours de bioinformatique. Donc, vous avez vous gardez, quoique déjà dans un cursus M, vous gardez une certaine diversité dans les cours qui sont proposés. On ne va pas vous faire séquencer du génome depuis le matin 8h jusqu'au soir 8h. Alors juste un mot sur la quatrième année. L'école propose deux masters que vous pouvez suivre en quatrième année. Le MPRI, le Master Parisien de Recherche en Informatique, et le Master Comasic, qui en gros sont les prolongements de ces deux années informatique et ingénierie des systèmes complexes. Donc c'est très clair pour Comasic qui est... Pour les gens qui suivent le Master Comasic sans être élèves de l'école, en première année, ils suivent nécessairement le Master ingénierie des systèmes complexes. Ce Master, il est co-organisé par l'IX, par un certain nombre d'universités, un certain nombre d'entreprises. La GCT Orsay est à l'Est, mais c'est pas exhaustif. Il y a d'autres entreprises et d'autres universités. Et le MPRI est un master qui est co-organisé avec les écoles normales, avec Paris 7 et également avec d'autres partenaires. Il faut que j'ai un post-it pour avoir la liste exhaustive. Donc c'est le master plus orienté informatique et le master plus orienté informatique dans les entreprises dont l'informatique n'est pas le cœur de métier. Vous avez un certain nombre d'écoles d'application qui vous proposent, qui ont une dominante informatique, Télécom, l'ENSIMAG, Supélec. Et puis, vous avez une possibilité de faire un master à l'étranger. Donc, chaque année, on envoie un certain nombre d'élèves à Stanford, à Cornell, à Carnegie Mellon. Et donc, là aussi, il y a des masters tout à fait intéressants à l'étranger. Ce qui est important quand vous allez à l'étranger, c'est de savoir exactement où vous allez. Il faut vous souvenir qu'à Boston, il y a 60 facs et qu'à peu près, il y en a 57 dont vous ne savez pas citer le nom. Donc vous avez sans doute entendu parler du MIT, vous avez sans doute entendu parler de Harvard, vous avez peut-être entendu parler de Boston University, Mais il faut savoir qu'il y a aussi 57 autres facs qui sont, dont certaines ont une visibilité internationale extrêmement réduite. Et c'est très important quand vous allez à l'étranger, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez au Royaume-Uni, de ne pas aller aux États-Unis pour aller aux États-Unis, mais d'aller aux États-Unis pour aller dans une fac particulière. Et pour ça, les enseignants du département sont là pour vous aider à vous orienter dans cette jungle qui de plus évolue extrêmement vite. Donc il y a des départements qui montent, il y a des départements qui descendent, il y a des départements qui montent sur certains sujets, il y en a d'autres qui descendent sur d'autres sujets. Et donc pour ça, il n'est pas trop de mettre ensemble toute la compétence de tous les enseignants du département d'informatique de l'école pour vous aider à vous orienter. Alors une chose importante, c'est que ces différents choix doivent être cohérents. Donc il ne faut pas vous poser de manière indépendante la question de faire un stage de recherche, de faire un programme d'approfondissement et de faire une quatrième année. Il faut que tout ça corresponde à un projet qui vous est personnel et un projet de formation où vous décidez, où vous dites, c'est ça que j'ai envie de faire. Et une fois que vous avez décidé de ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de vous intéresser au système embarqué, à ce moment-là, il est assez naturel de choisir un PA, un stage en système embarqué, une formation en quatrième année où vous pouvez continuer à faire des systèmes embarqués. Vous voulez faire des preuves de programme, à ce moment-là, il faut choisir des cours qui vous préparent à ça, un stage qui vous prépare à ça, une quatrième année qui vous prépare à ça. Et il faut de plus que ces choix soient cohérents non seulement avec un projet de formation, mais avec un projet professionnel, puisque le but n'est pas juste de faire un master pour faire un master, mais c'est aussi de faire un master pour faire quelque chose après. Et bien sûr, quand vous faites un projet professionnel, vous ne pouvez pas aujourd'hui décider de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider exactement du type de métier que vous ferez. Vous ne pouvez pas dire, dans 5 ans, je serai en train de travailler dans une soufflerie sur une aile d'avion triangulaire. Donc ça, c'est quelque chose de trop précis. Donc une bonne manière de vous poser des problèmes, ces problèmes, c'est de les aborder exactement par le bout inverse de celui qui consiste à dire, qu'est-ce que je dois choisir comme cours, dans quelle entreprise je dois aller. C'est d'essayer de prendre le problème de la manière la plus macroscopique possible et de vous poser des questions générales, et en particulier ces deux questions. Est-ce que vous souhaitez travailler plutôt dans l'industrie, plutôt dans la recherche ou plutôt dans l'administration? Et ça, il serait bien qu'aujourd'hui, vous ayez déjà la réponse à cette question. Peut-être, si vous voulez travailler dans la recherche, vous n'aurez pas dans la minute votre sujet de thèse. Vous n'aurez peut-être même pas dans la minute exactement le laboratoire où vous voulez aller, et effectivement, c'est un petit peu trop tôt. En revanche, c'est bien si, dès maintenant, vous excluez 2 de ces pistes pour vous concentrer sur la 3e. De la même manière, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous souhaitez vous arrêter après l'école et commencer tout de suite une carrière professionnelle, ou est-ce que vous voulez, après la 4e année de l'école, poursuivre par un doctorat? Alors, si vous choisissez la recherche, la question ne se pose pas. Vous êtes plus ou moins obligé de faire un doctorat avant de commencer une carrière de recherche. En revanche, la question se pose, si vous voulez vous orienter vers l'industrie ou vers l'administration, vous pouvez le faire à la fin du M ou vous pouvez le faire à la fin du D. Et ça, c'est votre décision. Donc, chaque année, il y a des élèves qui viennent me voir dans mon bureau parce que faire ses choix les terrorise. Et donc, c'est un tout petit peu normal puisque... En gros, c'est le premier moment dans votre vie où on vous demande de faire des choix comme ceci. Avant ça, vous étiez dans un système d'aide à l'indécision qui s'appelle la taupe, où votre ambition était d'entrer à l'école, ou dans une autre école peut-être. Bon. Mais maintenant, vous êtes dans celle-ci. Donc la question de savoir dans quelle école vous allez entrer ne se pose plus. Et également, le fait d'avoir un concours devant soi... vous désincite à réfléchir à ce que vous ferez après avoir réussi au concours. D'accord ? Il est même expliqué par certains profs de taupe que ça porte la poisse de trop imaginer ce qu'on va faire après avoir intégré. C'est le meilleur moyen de ne pas intégrer. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'exercice sur lequel on est, et puis on verra après. Alors bon, c'est une bonne stratégie puisqu'elle vous a mené ici, mais c'est clairement une stratégie qui est devenue obsolète. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir comme ambition d'entrer à l'école polytechnique. C'est quasiment la seule ambition que vous ne pouvez pas avoir. C'est fini. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un droit à l'erreur. Et c'est une manière d'aborder ces choix sereinement, c'est de se dire que chaque année, je rencontre des polytechniciens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, certains qui ont 60 ans ou 70 ans, et qui commencent une thèse parce qu'ils n'en ont pas fait en sortant de l'école, ou qui décident d'abandonner une carrière. Par exemple, j'ai un certain nombre de camarades qui ont décidé cette année, pour une raison que j'ignore, que travailler dans un hedge fund ne les intéressait plus et donc qui commencent à faire autre chose. Donc, c'est tout à fait possible de revenir en arrière et de prendre une autre voie. Donc, les choix que vous faites ne sont en aucun cas définitifs. On a un de nos anciens camarades, que moi j'ai eu comme prof quand j'étais à l'école, qui à l'époque était ministre, et puis qui a décidé qu'il ne voulait plus être ministre, il voulait être chef d'orchestre. Bon, eh bien, il a abandonné son travail de ministre, il a pris des cours de musique, j'imagine, et il est devenu chef d'orchestre. Donc, il est tout à fait possible de faire machine arrière et de faire autre chose. En revanche, donc, ça vous ramène un petit peu au parcours d'arbre, hein, vous vous souvenez. On descend dans une branche, on remonte, puis on descend dans l'autre. En revanche, ce qui est interdit de faire, c'est de rester au carrefour, de regarder les deux voies et de n'en prendre aucune des deux. Donc, vous n'avez pas le droit de ne pas choisir. En revanche, si vous faites le mauvais choix, vous avez tout à fait la possibilité de backtracker et d'en faire un autre. Cela dit, c'est toujours mieux si vous faites directement le bon choix. Et pour ça, c'est important d'y réfléchir dès ses vacances. Sur la plage, il faut essayer de vous dire, de vous projeter, là, en bronzant, vous vous dites, à quoi ressemblera ma vie dans 10 ans si je suis ingénieur dans l'industrie? À quoi est-ce qu'elle ressemblera si je suis haut fonctionnaire au ministère des Finances? C'est des vies un tout petit peu différentes. Et donc, c'est en essayant de vous projeter, en essayant de vous imaginer dans ces situations, que vous vous donnerez les bons outils pour l'année prochaine, faire le choix du meilleur programme d'approfondissement, c'est-à-dire ou bien le programme d'approfondissement informatique ou bien ingénierie des systèmes industriels complexes. Bien, on va passer à ce qui est le sujet de cet amphi, qui est le tri. Et juste un tout petit peu avant de commencer le tri, pour tirer la morale de ce qu'on a vu dans les amphis consacrés aux arbres, les deux derniers amphis, et également dans l'amphi numéro 6 qui était consacré aux listes. Et il y a une question qui vous devez vous poser. On vous a dit certainement un grand nombre de fois dans votre vie qu'il fallait ranger votre chambre, qu'il fallait ranger votre bureau, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, par exemple, ce qu'on vous a dit, que si vos livres et vos disques sont rangés, quand vous voulez en retrouver un, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que, comme il est à sa place, eh bien, vous ne perdez pas de temps. Donc, est-ce que le temps que vous passez à ranger votre chambre est du temps bien investi pour ensuite retrouver vos affaires? Et je vous ai donné un peu deux réponses différentes à cette question. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on travaille avec des listes, ranger n'a aucun intérêt, puisque les algorithmes de recherche dans les listes sont linéaires, que la liste soit ordonnée ou qu'elle ne soit pas ordonnée. Et donc ça, c'est une chose que, malheureusement, vous ne saviez pas, c'est un argument pour ne pas ranger sa chambre, c'est que dans une liste, retrouver un élément, que la liste soit ordonnée ou pas, on ne peut rien en faire puisqu'on n'a pas accès à l'élément médian, et donc, en un temps constant, je veux dire. Et donc, même si on veut, même si la liste est ordonnée, on ne peut rien, on ne peut pas du tout tirer parti de cet ordre. En revanche, on s'est aperçu, un petit peu de science vous éloigne de la morale traditionnelle selon laquelle il faut ranger sa chambre, mais beaucoup de science vous en rapproche, puisqu'on s'est aperçu que quand on a vu les arbres, à ce moment-là, avoir des arbres qui avaient une certaine structure, c'est-à-dire dans lesquels les données étaient rangées, alors que ça soit sous forme d'un arbre de recherche ou que ça soit sous forme d'un arbre, d'un tas, d'une file d'attente, à ce moment-là, eh bien, ça permet de rendre des opérations qui étaient linéaires logarithmiques. Et rappelez-vous que la fonction logarithme, s'il faut la comparer à une fonction, c'est à peu près la même chose que la fonction 1. Alors, elle croît un petit peu plus vite que la fonction 1, mais elle croît beaucoup moins vite que la fonction x. Donc, quelque chose qui est logarithmique, ça ressemble plus à quelque chose qui est constant qu'à quelque chose qui est linéaire. Donc, vraiment, passer de linéaire à logarithmique, c'est un énorme progrès. Et donc, ça veut dire que cette notion de classement a un certain intérêt pour les algorithmes de recherche en table. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui permettent de prendre des données qui sont amorphes, des données qui ne sont pas ordonnées, et de les ordonner. Et ces algorithmes s'appellent les algorithmes de tri. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien entre les questions de recherche dans une liste ou dans un arbre et ces questions de tri, puisque c'est trier les données qui va vous permettre d'avoir des tables structurées dans lesquelles on peut faire de la recherche en temps logarithmique. Et inversement, les algorithmes de recherche, comme on va le voir, peuvent être utilisés aussi pour faire du tri. Donc ça, on va voir ça à la toute fin de l'amphi. Et donc c'est pour ça que ces questions de tri et de recherche sont toujours traitées ensemble en algorithmique, par exemple dans le livre de Knuth qui s'appelle « Sorting and Searching ». Donc c'est vraiment le même problème qui se pose dans les deux cas. Alors souvent, on vous explique que pour trier des données, il y a besoin d'une relation d'ordre. Et en fait, on a souvent besoin uniquement d'une relation qui a moins de propriétés qu'une relation d'ordre, qui est être une relation de préordre. Alors, c'est quoi une relation de préordre? C'est juste une relation qui est réflexive et qui est transitive, mais qui n'est pas forcément antisymétrique. Et quand on a une relation de préordre qui est une relation antisymétrique, eh bien, ça s'appelle à ce moment-là une relation d'ordre. Alors, un exemple de relation qui est un préordre sans être un ordre, si vous avez des points du plan, vous pouvez les trier par abscisse croissante. Et vous voyez qu'avoir une abscisse plus petite qu'un autre point, c'est une relation qui est réflexive, qui est transitive, mais qui n'est pas antisymétrique. Si vous avez deux points où chacun a une abscisse plus petite que l'autre, bon, ben, ils ont la même abscisse, mais ce n'est pas forcément le même point, puisque leur donnée n'est pas nécessairement la même. Et de manière plus générale, il y a une différence entre ces notions de réflexivité et de transitivité et cette notion d'antisymétrie. C'est que ici, la seule relation qui intervient, c'est la relation que vous êtes en train de caractériser. C'est la relation plus petit. Alors que dans l'antisymétrie, vous avez besoin de la relation plus petit et vous avez aussi besoin de la relation égale. Or, autant c'est relativement facile de dire ce que ça signifie qu'un objet est plus petit qu'un autre, autant on a vu que dire que deux objets sont égaux, c'est un problème extrêmement délicat. Par exemple, est-ce que 2 tiers est égal à 4 sixièmes? Alors, en tant que fraction, non. En tant que rationnel, oui. Mais les rationnels, c'est des classes de fractions, c'est-à-dire c'est des ensembles infinis qui sont difficiles à représenter dans une machine. En général, ce qu'on représente dans une machine, c'est les fractions. Et donc, il se pose la question sur votre ensemble de fractions, quelle est la relation d'égalité que vous voulez considérer? Et bien souvent, une relation est antisymétrique pour une certaine relation d'égalité, et elle n'est pas antisymétrique pour une autre. Donc c'est toujours une bonne idée d'essayer de se passer de cette relation d'antisymétrie et de ne pas se poser ces problèmes d'égalité. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'informatique théorique, c'est que la relation d'ordre que les mathématiques traditionnelles, enfin disons depuis 4000 ans, ont mis en avant, en particulier l'ordre sur les entiers, l'ordre sur les réels, c'est sans doute une relation... Enfin, ce n'est pas la notion... importante, en tout cas pour l'informatique, c'est souvent la notion de préordre qui est importante. Un ordre comme un préordre eh bien, peut être total ou non, et un préordre est total quand à chaque fois qu'on a deux éléments x et y, eh bien, ou bien x est plus petit que y, ou bien y est plus petit que x, et vous voyez que ça, c'est complètement indépendant de l'antisymétrie. La relation que je vous avais donnée de préordre qui n'était pas antisymétrique, avoir une plus petite abscisse que, eh bien, elle est totale. Quand vous avez deux points, il y en a toujours un qui a une abscisse plus petite que l'autre, et pourtant, elle n'est pas antisymétrique. Donc, on va essentiellement travailler avec des relations qui sont des préordres totaux et on va essayer de ne pas utiliser l'antisymétrie. Donc, quel est le problème du tri? On a un tableau qui contient des données, n données, n éléments. On a une relation qui est une relation, un préordre total. Et on veut fabriquer un tableau qui contient les mêmes données, mais qui sont ordonnées selon ce préordre. Et alors, il va se poser une question importante, c'est de savoir est-ce qu'on veut un autre tableau ou est-ce qu'on veut avoir les données ordonnées dans le même tableau. Et dans ce cas-là, on appellera ça un tri en place. Donc, voici un exemple. Vous avez ici des couples. Là, je les ai classés par abscisse croissante. Et donc, vous voyez, par exemple, que le point 7, 9, ici, se trouve à droite du point 1, 4, parce qu'il a une plus grande abscisse. En revanche, j'avais un certain degré de liberté entre le point 7.9 et le point 7.3. Je pouvais mettre celui que je voulais d'abord. Et donc, le résultat n'est pas complètement déterminé, n'est pas complètement spécifié. L'un ou l'autre des tableaux aurait marché. Ici, vous voyez que j'avais deux fois le point 5.3. Il faut que je le retrouve deux fois. Et là, à l'inverse de ces deux points 7.9 et 7.3, ça n'a pas de sens de dire que celui-ci est celui-là ou que celui-ci est celui-là. Donc il y a ici une seule possibilité qui est de mettre deux fois le point 5.3 ici. Alors, on va commencer par voir deux algorithmes qui sont les deux algorithmes les plus simples pour trier un tableau qui s'appellent le tri par sélection et le tri par insertion. Et ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la différence entre ces deux algorithmes. Et comme on va le voir, c'est une différence qu'on va retrouver en comparant d'autres algorithmes. Et cette différence, c'est de savoir si on raisonne sur le tableau qui se trouve là, le tableau d'entrée, le tableau initial, ou si on raisonne sur le tableau qui se trouve là, le tableau trié, le tableau final, le tableau de sortie. Et en particulier, si on commence à s'intéresser d'abord à ce couple 7-3, parce qu'il avait la bonne idée de se trouver dans la première case du tableau ici, ou si on s'intéresse d'abord au couple 1-4, qui, bien qu'il soit là, va terminer dans la première case du tableau. Donc si on raisonne sur le tableau trié, eh bien c'est le couple 1-4 qui va nous intéresser en premier. Si on s'intéresse au tableau à trier, c'est le couple 7-3 qui se trouve ici. Alors le tri par sélection, c'est un algorithme dans lequel on s'intéresse au tableau trié et non pas au tableau à trier. Et on se pose la question, quel est le premier élément du tableau final, du tableau une fois qu'il sera trié. Et donc ça, c'est pas difficile de comprendre que c'est un minimum de ce tableau. Alors pourquoi est-ce que je dis un minimum ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir deux fois le même élément dans le tableau. Donc dans ce cas-là, je peux choisir celui que je veux. Mais il peut aussi, comme j'ai une relation de préordre, il peut y avoir plusieurs éléments distincts qui sont tous minimaux. D'accord ? Il peut y avoir plusieurs éléments qui ont une abscisse minimale et qui ont une ordonnée différente. Donc j'en prends un, en général le premier que je trouve, et puis je le permute avec la première case du tableau. Et donc vous voyez que c'est un algorithme qui est en place. Je n'ai pas besoin de construire mon tableau trié ailleurs que dans le tableau où les données me sont données. Et donc je le permute une première fois. J'ai maintenant ce petit bout du tableau qui est trié. Et je dois trier ce qui reste ici. Ben, je vais chercher le minimum dans ce qui reste, puis je vais le permuter avec la deuxième case, etc. Donc voilà comment ça se programme en Java. Ici, j'ai une boucle qui me permet de trouver l'élément minimum du tableau. Une fois que je l'ai trouvé, je le permute avec l'élément courant i. Donc min, c'est l'élément minimum. I, c'est la case qui m'intéresse. Et je mets tout ça dans une boucle où i varie de 0 à n, moins 1, pour trier, pour insérer, pour sélectionner pardon, les éléments les uns après les autres. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet algorithme ici, et ça on va en discuter tout à l'heure, le fait qu'il y a deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Alors, passons au tri par insertion, l'autre algorithme. Et le tri par insertion, c'est essentiellement l'algorithme que vous utilisez pour trier des objets à la main. Si vous avez une pile de CD et que vous voulez les trier par ordre alphabétique du compositeur, par exemple, eh bien, vous allez, ce qui est d'ailleurs un préordre, hein, l'ordre alphabétique du compositeur, il arrive qu'il y ait deux disques et le même compositeur, l'algorithme que vous allez utiliser, c'est un algorithme de tri par insertion. C'est essentiellement le même algorithme, sauf qu'au lieu de s'intéresser à construire petit à petit le tableau final, on s'intéresse à trier petit à petit le tableau initial. Donc, au début, on commence par le premier élément du tableau, et donc lui tout seul, il est trié. Puis les deux premiers éléments, et donc ce qu'il faut... Il faut les permuter si celui-ci n'est pas plus petit que celui-là. Sinon, on peut les laisser tels qu'ils sont. Et En régime permanent, vous avez déjà trié une partie du tableau, qui est rouge ici. Vous avez une partie du tableau qui n'est pas triée, qui est la partie noire qui se trouve là. Vous prenez le premier élément qui est dans la partie pas triée. Vous vous dites, où est-ce qu'il faut que je l'insère? Par exemple, vous devez l'insérer entre cet élément et cet élément-là. Et là, vous devez décaler ces deux éléments, hop, hop, pour pouvoir mettre celui-ci ici. Donc voilà comment ça se programme en Java. Vous avez à nouveau une boucle qui va faire varier i de 0 à n-1. Et puis, à chaque fois, pour chaque valeur de i, vous allez parcourir la fin du tableau de manière à trouver l'élément... Excusez-moi. Vous allez d'abord prendre l'élément qui se trouve en position i, et c'est celui-là que vous allez insérer. Et pour l'insérer, vous avez besoin de décaler tous les éléments qui se trouvent entre j, qui est la place où vous voulez l'insérer, et i plus 1, enfin, qui est la place du nouvel élément, qui est l'ancienne place de l'élément que vous voulez insérer. Encore une fois, vous avez deux boucles imbriquées, et si vous regardez le nombre de fois que cette instruction ici est exécutée, c'est-à-dire le corps de la boucle la plus interne, eh bien, vous voyez que c'est, dans un cas comme dans l'autre, une instruction qui est exécutée un nombre de fois, qui est n-1, plus n-2, plus n-3, etc., plus 1, plus 0, et que ça, c'est en gros n2 sur 2, c'est-à-dire essentiellement, c'est n au carré, et donc cet algorithme est quadratique. Il prend un nombre d'éléments, il prend un temps qui est proportionnel au carré du nombre d'éléments à trier. C'est exactement la même chose pour le tri par insertion, et donc on a deux algorithmes, ici le tri par sélection et le tri par insertion, qui sont quadratiques. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont quadratiques et est-ce qu'il y aurait un moyen de les rendre plus rapides? Et la réponse est oui, et ces deux algorithmes sont quadratiques pour la même raison, c'est que quand vous avez un tableau, ce tableau qui a n éléments est toujours décomposé en un élément d'un côté et n-1 élément de l'autre. Alors cette division peut varier. Dans le cas du tri par sélection, c'est l'élément minimum et le reste du tableau. Dans le cas du tri par insertion, c'est le premier élément du tableau et le reste du tableau, mais dans les deux cas, vous en prenez un d'un côté et puis n-1 de l'autre. Donc vous pouvez reprendre les mêmes idées qui sont raisonnées sur le tableau trié ou raisonnées sur le tableau à trier, mais en divisant votre tableau non pas en 1 et n-1, mais en deux moitiés égales. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir deux autres algorithmes. Le tri par sélection va devenir un algorithme qui s'appelle le tri rapide. Le tri par insertion va devenir un autre algorithme qui s'appelle le tri fusion. Donc cette idée de décomposer n en n sur 2 et n sur 2, plutôt que de les décomposer en n-1 et en 1, elle porte un nom, elle s'appelle diviser pour régner, et elle s'oppose à ce qu'on appelle la récurrence. Et c'est un très mauvais choix de terminologie, puisque vous savez que quand on fait une démonstration par récurrence, il y a deux possibilités, ou bien on a une hypothèse de récurrence pour n-1, ou bien on a une hypothèse de récurrence pour tout n strictement inférieur à la valeur qu'on considère, enfin pour tout p strictement inférieur à n, et donc les deux méthodes sont des méthodes par récurrence. Mais le mot récurrence, dans ce contexte, est resté pour l'idée du tableau final. Maintenant, dans le tri rapide, on va se poser la question, quelle est la première moitié du tableau final? Et alors, comment on fait ça? On choisit un élément quelconque dans le tableau. En général, on prend le premier. On l'appelle le pivot. Et on va trier tous les éléments du tableau en des éléments plus petits que le pivot, des éléments plus grands que le pivot. Et si on a un petit peu de chance, eh bien, on va avoir la moitié des éléments qui seront plus petits que le pivot, la moitié des éléments qui sont plus grands que le pivot. Mais ça, vous voyez que c'est juste en moyenne, et il n'y a pas de moyen de choisir le pivot de manière à ce que ça soit toujours le cas. Donc, a priori, n'importe quelle partition des n-1 éléments qui sont distincts du pivot peut arriver ici, mais en moyenne, il va y avoir moitié-moitié. Une fois qu'on a ces deux sous-ensembles du tableau, des éléments à trier, on les trie, et ça, on le fait séparément, et c'est juste un appel récursif à la fonction de tri. Et une fois qu'on les a triés, on réassemble les deux moitiés de tableaux triés. Ici, l'assemblage est extrêmement facile. Vous mettez d'abord tous les éléments plus petits que le pivot, qui sont maintenant triés puisque vous les avez triés récursivement, puis le pivot, puis tous les éléments plus grands que le pivot, et vous avez terminé. Donc comment est-ce que ça se programme en Java? Eh bien, comme ça, vous avez encore une fois un seul tableau. Donc c'est un algorithme de tri en place. Vous avez en régime permanent le pivot. Ça c'est la première phase de l'algorithme, c'est la phase de séparation dans laquelle on choisit un pivot et on sépare les éléments entre ceux qui sont plus petits que le pivot et ceux qui sont plus grands que le pivot. Et donc en régime permanent de cette phase de séparation, vous avez le pivot qui est dans une case i. Vous avez tous les éléments qui sont plus petits que le pivot qui sont à gauche du pivot ici. Vous avez les éléments que vous avez déjà trouvés qui sont plus grands que le pivot complètement à l'autre bout du tableau entre J et Q qui est la fin du tableau. Et puis entre I plus 1 et J, vous avez tous les éléments que vous n'avez pas encore sélectionnés, que vous n'avez pas encore séparés en les mettant ou bien ici ou bien là. Et donc vous vous posez la question de savoir comment se compare cet élément avec le pivot. S'il est plus petit que le pivot, eh bien, vous allez faire avancer le pivot ici et faire reculer cet élément-là et augmenter i de 1. Le pivot va se trouver là. Il y aura un élément de moins à trier. S'il est plus grand, vous allez le permuter avec la case j, cet élément-là avec la case j, donc i plus 1 avec j, et vous allez décrémenter j qui maintenant va se trouver là. Et dans les deux cas, cette partie des éléments qui ne sont ni le pivot, ni connu pour être plus petit que le pivot, ni connu pour être plus grand que le pivot, eh bien, va diminuer de 1. Alors voilà comment se présente cette phase de séparation. Elle est ici. Donc vous partez d'un tableau, vous cherchez à trier un segment du tableau qui commence à la case P et qui termine à la case Q. Au début, le pivot c'est P et J, le plus grand élément non encore trié, c'est Q. Puisque si vous n'avez aucun élément ici, vous voyez que J va être égal à Q. Donc là, vous prenez I égale J et J égale Q. Et puis, pour chacun des éléments du tableau, si l'élément est plus petit que le pivot, vous le permutez avec le pivot. S'il est plus grand, vous le permutez avec l'élément TJ, la case J du tableau. Ici, vous incrémentez I, ici, vous décrémentez J. Et vous vous arrêtez quand I est devenu plus grand que J, quand I est égal à J. Quand I est égal à J, I et J sont tous les deux le pivot. Vous avez ici I qui est là, c'est J, I est égal à J, c'est le pivot. Ce que vous avez à gauche, c'est les éléments plus petits, ce que vous avez à droite, c'est les éléments plus grands. Et là, il vous suffit juste de faire un appel récursif pour trier la partie qui était à gauche du pivot, c'est-à-dire elle va de P, qui était le premier élément du tableau, à I-1. Et de la même manière, vous triez tout ce qui était à droite du pivot, c'est-à-dire tout ce qui va de I plus 1 à Q, et vous avez terminé. Il n'y a même pas de phase d'assemblage, puisque l'algorithme étant en place, une fois que vous avez ici tout ce qui est plus petit que le pivot, ici tout ce qui est plus grand que le pivot, il vous suffit de trier ça, et l'ensemble du tableau est trié. Alors la question de la complexité de cet algorithme n'est pas complètement évidente, il y a un petit calcul à faire. Pourquoi ? Bien précisément parce que trier un tableau de taille n demande d'abord un temps qui est linéaire en n, donc qui est borné par une constante fois n plus 1. Et ça, c'est la phase de sélection. Ici, vous voyez qu'en gros, vous allez faire un nombre d'opérations qui est formé d'une partie linéaire en la taille du tableau, puisque vous allez parcourir chacun des éléments, et d'une partie constante, puisque au début, vous avez un certain nombre d'opérations que vous ne faites qu'une fois. Et donc, une manière de borner ça, de majorer ça, c'est de dire que c'est plus petit que a n plus 1. En revanche, Quand vous allez avoir une moitié d'éléments plus petits que le pivot, une moitié d'éléments plus gros, plus grandes que le pivot, vous pouvez avoir à peu près toutes les partitions possibles. Et donc ici, il est important de savoir si on cherche la complexité en moyenne ou si on cherche la complexité dans le pire des cas. Et si on s'intéresse à la complexité en moyenne, comme c'est la première chose qu'on va faire, eh bien, il va falloir faire une moyenne de tous les CK. C'est la complexité de trier un tableau de taille K. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord vous convaincre que si vous avez 10 éléments à trier, que vous enlevez le pivot et vous en reste 9, il faut vous convaincre que la partition 0,9, 1,8, 2,7, 3,6, 4,5, 5,4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 0, 9, 9, 0, pardon, ont la même probabilité. Et pourquoi est-ce que toutes ces partitions ont la même probabilité ? Voilà, ça dépend uniquement du choix du pivot. Une fois que vous avez choisi le pivot, si le pivot c'était le septième élément dans l'ordre croissant des éléments, et ben vous avez une partition qui est 6 avant, 3 après. Et quand vous choisissez le pivot, tous les éléments du tableau ont la même probabilité d'être le pivot. Vous en prenez un au hasard parmi 10, donc vous voyez que vous avez une probabilité 1 sur 10 de choisir chaque élément du pivot, et que chaque élément du pivot va vous donner un élément de la partition. Une fois que vous avez une partition, par exemple 6 et 3, eh bien il vous reste à trier un tableau de taille 3 et un tableau de taille 6. Et donc ici, vous allez avoir C3 plus C6. Et donc vous voyez que ici, chaque partition a une probabilité 1 sur n. Et ici, vous devez faire C3 plus C6. Mais attention, vous avez aussi C6 plus C3. Donc C3 va être ici ajouté deux fois. C6 va être ajouté deux fois. Et donc, la moyenne de ce que vous avez ici comme temps, c'est 2 sur n, somme de k variant de 0 à n-1, des CK. Donc voilà une relation qui définit complètement la suite des CI, puisque vous voyez que CN est défini en utilisant les CK pour k strictement plus petit que n. Donc ça, enfin, à supposer que vous connaissiez C0, mais on va dire que c'est une constante, eh bien, vous avez complètement défini la suite CK. Alors, cela dit, on aimerait bien avoir une expression analytique un tout petit peu plus lisible que celle-ci. Alors, la première étape pour essayer de trouver une forme analytique pour cette fonction CK, c'est de supprimer cette somme. Et alors, comment est-ce qu'on va supprimer cette somme ? On va d'abord multiplier les deux membres de l'équation par n. Donc là, ça va vous donner ncn, et ici, ce n va disparaître, et il va vous rester deux sommes de k variant de 0 à n-1 des ck. Et vous voyez que si vous faites la même chose pour n plus 1, cn plus 1, vous allez obtenir ici la même somme, avec juste un élément de plus. Donc quand vous faites la soustraction, la somme va disparaître, et tout ce qui va vous rester ici, c'est cn. Donc autrement dit, vous trouvez cette autre relation qui est que n plus 1 c'n plus 1 moins ncn, c'est 2a facteur de n plus 1 plus 2cn. Et donc là, c'est formidable, vous avez une relation de récurrence entre cn plus 1 et cn, et non pas entre cn plus 1 et tous les c plus petits que n plus 1. Donc vous vous êtes ramené d'une relation de récurrence qui, pour calculer cn, devait connaître toute l'histoire du calcul, à une relation de récurrence qui, enfin toute l'histoire de la suite, qui a une relation de récurrence qui, pour calculer CN, vous demande juste d'avoir le précédent. Et donc on est plus près d'avoir intégré la suite. Bien, quand vous mettez ici tous les CN d'un côté, tous les CN plus 1 de l'autre, etc., vous obtenez cette relation de récurrence, qui est que CN plus 1 sur N plus 2, c'est un terme qui est en 1 sur N, plus CN sur N plus 1. Et donc là, vous pensez à faire un changement de la fonction, plutôt que d'essayer d'étudier Cn, on va étudier Cn sur n plus 1. Et donc la suite Cn sur n plus 1, elle a une forme simple, cn sur n plus 1, en n plus 1, c'est cn sur n plus 1 en n, plus quelque chose qui dépend de n. Donc ça nous amène à l'idée que cn sur n plus 1, c'est une certaine constante, plus deux fois la somme des 1 sur k. D'où vient cette somme des 1 sur k? C'est ce 1 sur n ici qui a fait une somme, okay, puisqu'on a déroulé la suite. On a une suite où chaque élément est obtenu en ajoutant quelque chose qui est en 1 sur n à partir du précédent. Donc, la forme générale de cn sur n plus 1, c'est la somme des 1 sur k. Et vous voyez ici que quand vous faites tendre n vers l'infini, la somme des 1 sur k est équivalente à log n. Et donc, du coup, ça vous donne que cn est asymptotiquement majoré par n log n. D'où vient le log? Le log vient de cette somme des 1 sur k. Voilà, donc on a la réponse à la question. La complexité en moyenne, elle est en grand taux de n log n. Et il n'est pas dur de trouver, on verra tout à l'heure, qu'elle, de toute façon, elle n'est pas plus petite que n log n, donc c'est n log n asymptotiquement. Donc vous voyez que ces questions de complexité, là, vous avez pu trouver que cette démonstration est particulièrement astucieuse, mais c'est pas le cas. Je veux dire, ici, c'est des méthodes générales, des théorèmes généraux qu'on applique. Et vous voyez qu'il y a ici du dénombrement, de la combinatoire, des études de suite qui sont parfois non triviales. Et ça, c'est un cas général en algorithmique. L'étude de la complexité des algorithmes, ce n'est pas du tout quelque chose qui utilise uniquement des maths élémentaires, mais il faut connaître des théorèmes très compliqués, comme savoir que la somme des 1 sur k est équivalent à log n. Et donc, il y a des techniques qui ont été développées, il y a même des programmes automatiques qui analysent la complexité d'algorithmes en reconstruisant ce genre de raisonnement. Et il y a des maths vraiment intéressantes derrière ça. En particulier, toute une branche des maths qui était une branche un petit peu académique, on va dire, qui s'appelle la théorie des séries formelles, qui est essentiellement la théorie des séries entières qui ne convergent pas, qui était un objet d'étude un petit peu ésotérique, est devenu un objet tout à fait central en algorithmique. Bien. Alors, cela dit, ça, c'est juste la complexité en moyenne. Et si on s'intéresse à la complexité dans le pire des cas, eh bien, à ce moment-là, la situation est beaucoup moins réjouissante, puisque passer de n2 à n log n, et rappelez-vous, n log n, en gros, c'est comme n. D'accord? Log, c'est comme 1. Log, c'est une fonction constante. Donc, on est passé d'une complexité quadratique à une complexité quasi-linéaire. Si vous avez 1 million d'éléments à ranger, au lieu de faire 1 million fois 1 million, vous faites 1 million fois 6. Okay? Ou si vous comptez en base 2, ça fait un nombre un tout petit peu plus grand. Mais vous voyez que de passer de 1 million à 6, il y a vraiment un gain énorme. Alors cependant, la situation est moins réjouissante dans le pire des cas, puisqu'on avait vu qu'on n'a aucun moyen, en choisissant le pivot, d'être sûr d'avoir une répartition égale des deux ensembles, des éléments plus petits que le pivot et des éléments plus grands que le pivot. Et donc, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Tous les éléments sont plus petits que le pivot, ou tous les éléments sont plus grands que le pivot, et donc votre répartition n sur 2, n sur 2, elle dégénère en une répartition n moins 1, 1. Et dans ce cas-là, vous retrouvez l'algorithme que vous connaissez, qui est l'algorithme de tri par sélection, et qui est quadratique. Donc, le tri rapide, il est rapide en moyenne, et il est quadratique dans le pire des cas. Et rappelez-vous, je vous avais dit la semaine dernière que ces pires cas, ils leur arrivent de se produire, et ils se produisent quand? On avait vu par exemple que quand on fusionnait deux bases de données, la pire des choses qui pouvaient arriver, deux arbres, disons, ce qui faisait que quand on insérait les éléments d'un arbre dans l'autre, on pouvait déséquilibrer celui-là, c'était précisément si les éléments qu'on insérait étaient ordonnés. Si les éléments arrivent dans un ordre complètement aléatoire, tout va bien. Si on les insère dans un ordre, par exemple dans l'ordre alphabétique, eh bien l'arbre va tout le temps insérer du même côté et on va obtenir un arbre complètement déséquilibré. Et ici, quel est le tableau le plus difficile à trier? Eh bien, c'est le tableau qui est déjà trié. Puisque vous allez tout le temps prendre le pivot, mettons, à gauche. Et donc, des éléments plus petits que le pivot, il ne va jamais y en avoir. Et des éléments plus grands que le pivot, il va toujours y en avoir n-1. Et donc, trier un tableau déjà trié, c'est la pire des choses qui puisse arriver au tri rapide. Donc, si vous êtes comme moi et qu'après avoir trié un tableau, vous relancez la fonction de tri pour être bien sûr qu'il est trié, eh bien, c'est le jour où, à ce moment-là, votre programme ne répond pas. Ou si vous avez déjà trié des données la veille, mais que vous dites « je ne suis pas absolument sûr de les avoir triées et j'ai peut-être modifié un tout petit peu » et vous les retriez, eh bien, vous vous retrouvez dans la situation la pire. Donc, pour ça, on a dit on va inventer d'autres algorithmes de tri. Et en particulier, puisqu'on avait cette opposition entre l'algorithme de tri par sélection et l'algorithme de tri par insertion, qui consistait à raisonner sur le tableau final ou sur le tableau initial, eh bien, il y a une idée qui est ici de combiner diviser pour régner, la méthode diviser pour régner, non pas avec un raisonnement sur le tableau final, mais avec un raisonnement sur le tableau initial. Et vous voyez que si je ne raisonne pas sur le tableau final, mais sur le tableau initial, à ce moment-là, j'ai toute liberté de diviser mes éléments du tableau initial en deux parties égales, puisque le tableau initial, je l'ai, je ne suis pas en train de spéculer sur un tableau que je vais construire dans le futur, je suis en train de raisonner sur un tableau que j'ai. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de tri fusion. Donc on raisonne sur le tableau à trier, on le divise en deux parties de même taille, et donc ici, on fait ce qu'on veut. Et une fois qu'on l'a divisé en deux parties de même taille, on trie séparément ces deux moitiés du tableau, ça c'est juste un appel récursif à la fonction, et on les fusionne. Mais attention, maintenant, c'est cette opération de fusion qui est devenue complexe. Dans l'algorithme de tri rapide, c'était la séparation en deux moitiés qui était complexe. Maintenant, c'est au contraire la fusion des deux moitiés après qu'elles ont été triées qui est devenue plus complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai coupé, j'avais un tableau de 7 éléments, je l'ai coupé, bon alors bien sûr, je ne l'ai pas coupé en deux moitiés de 3 éléments et demi, j'ai mis 4 éléments dans un cas ici et 3 éléments dans l'autre, et maintenant je veux les fusionner. Donc les éléments, vous arrivez à les lire, ici il y a 3, 5, 7, 11, et là il y a 2, 8, 10. Donc quel est le premier élément du tableau trié? Donc vous pouvez répondre 3, 5, 7, 11 ou 2, 8, 10. Donc quel est le plus petit de ces nombres? C'est 2. Et comment vous le savez? Eh bien vous n'avez pas besoin de le comparer à 8 et 10, puisque 8 et 10 sont plus grands, puisque ce tableau ici est trié. Vous avez juste besoin de comparer le plus petit élément du premier tableau avec le plus petit élément du deuxième. Et donc le premier élément, c'est 2. Donc je le mets ici et j'avance le curseur ici sur le deuxième élément du tableau. Celui-là a été consommé. Maintenant, je compare 3 et 8. Le plus petit élément, c'est 3. Donc je mets le 3 ici et j'avance le curseur. Maintenant, je compare 5 et 8, c'est 5. Donc je le mets là et j'avance le curseur. Je compare 7 et 8, c'est encore ce tableau qui gagne, c'est 7. Je le mets ici et j'avance le curseur. Maintenant, 8 et 11, c'est 8 qui gagne. Puis c'est 11, non pardon, puis c'est 10, et enfin c'est 11. Et donc j'ai comme ça fusionné ces deux tableaux dans celui-ci. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué pendant cette opération? C'est que cette fusion, elle ne peut pas se faire en place. J'ai eu besoin ici d'utiliser un tableau auxiliaire. Imaginez que j'ai mis ce tableau-là dans les 4 premières cases, ce tableau-là dans les 3 dernières, comment est-ce que j'aurais fait pour mettre les éléments dans ce tableau? J'ai aucun moyen de le faire. Donc, l'algorithme de tri-fusion, sa complexité, elle est en n log n. Dans le pire des cas comme en moyenne. Pourquoi est-ce qu'elle est en complexité en n log n dans le pire des cas? Eh bien, la relation de récurrence sur la complexité Cn, c'est la même que pour le tri rapide. Ça commence pareil, c'est Cn est plus petit que A facteur de n plus 1. Ça, ce sont toutes les opérations de fusion qui me prennent un temps linéaire en n. Mais ici, j'ai juste deux fois C n sur 2. Et non pas deux fois 1 sur n somme des Cn. Okay, ici, j'ai juste directement la moitié. Et donc, montrer que ça, c'est... Et ça, c'est la complexité à la fois en moyenne et dans le pire des cas. Et donc, montrer que ça, c'est plus petit que le n log n à une constante près, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, le tri rapide et le tri fusion ont chacun un avantage. Le tri rapide est en place. Le tri fusion est quasi linéaire. Dans le pire des cas, ils ont chacun un inconvénient. Le trifusion, il dégénère en un algorithme quadratique dans le pire des cas. Et le trifusion, il demande un tableau auxiliaire. Ce n'est pas un algorithme en place. Et donc ça amène une question qui est, est-ce qu'on peut imaginer un algorithme différent qui serait à la fois quasi-linéaire dans tous les cas, quasi-linéaire dans le pire des cas, et en place. Et là, on a un peu l'impression qu'on a fait le tour des idées qu'on avait. On a essayé récurrence ou divisé pour régner. On a essayé raisonner sur le tableau initial ou raisonner sur le tableau final. Et dans chacun des cas, on a abouti à un algorithme qui ne convient pas. Donc, récurrence, ça nous a donné tri par sélection et tri par insertion. On oublie son quadratique dans tous les cas. Divisé pour régner, ça nous a donné tri rapide et tri fusion, et on a vu que chacun avait un inconvénient. Aucun n'a simultanément les deux propriétés d'être en place et quasi-linéaire dans le pire des cas. Alors, on va voir un cinquième algorithme qui s'appelle le tri en tas et qui vérifie ces deux propriétés d'être quasi-linéaire dans tous les cas et d'être en place. Mais il vient d'une idée complètement différente. Ce n'est pas un algorithme qu'on peut comprendre en ayant comme grille de lecture l'opposition récurrence divisée pour régner et l'opposition raisonnée sur le tableau initial, raisonnée sur le tableau final. Cette grille de lecture, ces deux grilles de lecture nous ont amené à quatre algorithmes, aucun ne convient. Donc là, on a un cinquième algorithme qui est complètement différent et qui part d'une idée complètement différente. Cette idée, c'est l'idée que je vous avais donnée tout au début de l'amphi, c'est qu'il y a un lien entre trier et rechercher dans une table. Il y a un lien entre les algorithmes de recherche, les algorithmes de gestion de base de données, on va dire, de gestion de dictionnaire, de gestion d'ensemble fini, et les algorithmes de tri. Et donc ici, on va concevoir un algorithme de tri qui utilise les idées qu'on a vues la semaine dernière, et il y a 15 jours, sur la manière de rechercher un élément dans un ensemble. Alors, vous vous souvenez qu'on avait plusieurs structures, mais la plus simple était les fils de priorité, qui nous permettaient d'insérer un élément dans une file de priorité, de récupérer l'élément de plus grande priorité, à chaque fois en un temps logarithmique. D'accord, on avait vu qu'on pouvait faire ça dans un arbre de recherche, mais que c'était beaucoup plus simple de le faire avec une file de priorité. Vous vous souvenez la différence? Dans un arbre de recherche, quand vous avez un nœud, tous les nœuds qui sont à gauche sont plus petits, tous les nœuds qui sont à droite sont plus grands. Dans une file de priorité, quand vous avez un nœud, tous ceux qui sont ou bien à gauche ou bien à droite sont plus petits. Et donc, le nœud dont on part est le plus grand élément de l'arbre. La racine est toujours le plus grand élément de l'arbre. Donc, dans une file de priorité, on peut insérer un à un les éléments qu'on souhaite trier. Ça va prendre quel temps? N log n, puisque insérer, ça prend au maximum log n. Et on répète cette opération n fois, donc ça va prendre au maximum n log n. Et puis récupérer les éléments, un par un, en prenant d'abord le plus grand, puis le deuxième plus grand, puis le troisième plus grand, et à la fin, on aura un tableau trié. Donc, il y a un algorithme de tri. Dès que vous savez faire de l'insertion et retrouver le maximum en un temps logarithmique, vous avez un algorithme de tri en n log n. Ce qui reste à montrer, c'est que cet algorithme de tri est en place. Et le fait qu'il soit en place vient d'une remarque qu'on avait faite la semaine dernière, qui est que les files de priorité, elles peuvent être représentées dans un tableau. On n'a pas besoin d'avoir un arbre au sens des structures dynamiques de Java, on a juste besoin d'avoir un tableau. Donc voilà comment l'algorithme fonctionne. Vous avez un tas, c'est-à-dire une file de priorité, qui est représentée dans la partie gauche du tableau. Et ici, vous avez un nombre d'éléments en attente d'être insérés dans le tas que vous allez représenter dans la partie droite du tableau. Insérer cet élément, supposez que je le supprime du tableau, il va rester ici une case vide. Et quand je vais l'insérer dans le tas va croître comment ? Mais il va croître d'un élément vers la gauche, vers la droite. Vous vous souvenez, le tas, c'est un arbre dont on a numéroté les nœuds, et les nœuds sont numérotés de façon contiguë, ce qui nous permet de le représenter dans un tableau. Quand on a un tas qui a un élément de plus, au lieu d'avoir des nœuds qui étaient numérotés de 1 à n, ils sont numérotés de 1 à n plus 1, ce qui fait qu'il va juste utiliser une case de plus dans le tableau, c'est justement la case qu'on vient de libérer, en supprimant l'élément qu'on souhaitait insérer. Donc, la phase d'insertion, elle consiste juste à faire une boucle qui va parcourir le tableau et à chaque fois, qui va insérer cet élément dans le tas qui se trouve là. Maintenant, la phase de suppression. Vous vous souvenez que dans un tas, on peut supprimer l'élément de priorité maximale, qui ici va être juste l'élément maximal. Chaque élément va avoir comme priorité sa valeur. Si je supprime cet élément, l'élément de priorité maximale, comment est-ce que le... Donc l'élément de priorité maximale, c'est le premier élément du tableau. Et si maintenant je le supprime, comment est-ce que le tas va évoluer ? Eh bien, il va juste avoir une case de moins. Et regardez le premier élément, donc ici, quand je vais supprimer celui-là, c'est cette case-là qui va être moins utilisée, qui ne va plus être utilisée. Or justement, ça c'est le maximum. Et le maximum, où est-ce que je dois le mettre dans le tableau trié ? Ici. Donc la suppression de cet élément va me libérer exactement la case où je veux le mettre. Et de manière générale, en régime de croisière, ici je vais avoir une partie du tableau déjà triée, qui contient des éléments qui sont tous plus grands que ceux qui se trouvent ici dans le tas. Le plus grand élément du tas, il se trouve là. Donc lui, il est plus grand que tout cela, mais il est plus petit que tout cela. Quand je vais le supprimer, ici, ça va libérer une case du tas, qui va être laquelle ? Eh bien, celle-ci. Et je vais mettre l'élément maximum ici. Vous voyez que lui, maintenant, il est plus petit que tous ceux qui se trouvent là. Et il est plus grand que tous ceux qui restent. Donc en utilisant le même tableau dans la phase d'insertion pour avoir les éléments qui sont déjà dans le tas à gauche et les éléments qui ne sont pas encore insérés à droite, et puis dans la phase de suppression pour avoir les éléments du tas à gauche et les éléments déjà triés à droite en commençant par les plus grands, eh bien je peux programmer cet algorithme en place. Donc voilà comment il se programme. Si vous avez déjà programmé la fonction insert et la fonction suppress dans un tas, et ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, eh bien il suffit de faire deux boucles qui varient de 1 à n, enfin de 0 à n moins 1, pardon, et d'insérer successivement l'élément i dans le tas qui va de 0 à i moins 1. Puis vous avez une deuxième boucle dans laquelle vous faites quelque chose de beaucoup plus compliqué que juste faire insérer. Vous récupérez le premier élément du tableau, vous le supprimez du tas et vous le mettez dans l'élément i. Et donc vous voyez que la seule variable auxiliaire dont vous avez besoin, c'est a. Donc vous n'avez pas besoin d'un second tableau, vous avez juste besoin de stocker temporairement cet élément que vous êtes en train de supprimer du tas pour le remettre dans la partie droite du tableau. Et donc cet algorithme avec le tri en tas est un algorithme qui est quasi linéaire dans tous les cas et qui est en place. Donc, ça résout le problème qu'on avait vu en comparant le tri rapide et le tri fusion, qui était d'avoir les meilleures propriétés des deux algorithmes, d'avoir à la fois un algorithme en place et quasi linéaire. Maintenant, on peut se dire, après tous ces succès, essayons de faire encore mieux. Et essayons de trouver un algorithme qui soit plus rapide que quasi linéaire, plus rapide que n log n. Et donc la première idée, c'est d'aller à un algorithme qui soit en n, un algorithme qui soit linéaire. Et donc ça, on va démontrer que c'est impossible. Et dans toutes les questions de complexité qu'on a vues jusqu'à présent, on était dans une situation où on disait, on cherche un algorithme qui a une certaine complexité, et il y avait deux réponses possibles, ou bien on en trouvait un, ou bien on n'en trouvait pas. D'accord ? Et ça, c'était par exemple la situation de la géométrie jusqu'au 19e siècle. La quadrature du cercle, on cherche une construction à la règle au compas d'un disque et d'un carré de même R, ou bien on en trouve, ou bien on n'en trouve pas. D'accord ? La duplication du cube, ou bien on y arrive, ou bien on n'y arrive pas. Mais si on n'y arrive pas, on n'est pas il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre, l'année d'après, y arrive. Et vous savez que c'est seulement à partir du 19e siècle qu'on a su démontrer qu'il était impossible de résoudre la quadrature du cercle, démontrer qu'il était impossible de résoudre la trisection de l'angle, démontrer qu'il était impossible de résoudre la duplication du cube. Et donc, ici, on va voir qu'il y a en complexité un certain nombre de résultats négatifs, et on va voir le type de méthode qu'on peut utiliser pour arriver à ces résultats. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est parce que vous savez qu'il y a un problème qui s'appelle P est différent de NP, pour lequel il y a un prix de 1 million de dollars pour celui qui arrivera à le résoudre, et ce problème est un problème négatif de complexité. Ce qu'il s'agit de montrer, c'est qu'il n'existe pas d'algorithme polynomial pour résoudre un certain problème, par exemple le problème du voyageur de commerce, ou le problème de la satisfiabilité d'une formule booléenne. Donc, si je vous dis ça, c'est pour vous motiver pour les 10 dernières minutes de ce cours, pour vous consacrer à des questions négatives de complexité. Est-ce qu'on peut faire mieux que n log n? La réponse est non, et elle est non sous deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le tableau initial peut être une permutation quelconque. Et le deuxième élément, c'est que la seule opération qu'on a le droit de faire sur les éléments du tableau, c'est de les comparer. Et donc ces deux hypothèses sont nécessaires l'une et l'autre. Vous avez compris que si le tableau initial n'est pas une permutation quelconque, mais qu'on a une hypothèse, qu'on a une information sur la manière dont les éléments sont déjà ordonnés, on peut faire des algorithmes plus rapides. Par exemple, il y a un algorithme qui permet de trier des tableaux en un temps constant, en supposant que les tableaux sont déjà triés. Mais bien sûr, c'est pas de ça dont le théorème parle. Comme on va le voir, le fait qu'on ne puisse faire que la comparaison sur les éléments de l'ensemble est aussi quelque chose d'important. On va voir un contre-exemple tout à l'heure. Mais pour le moment, supposons qu'on a ces deux hypothèses. On est dans le cas complètement général, on ne sait rien ni sur l'ordre des éléments dans le tableau initial, ni sur les éléments eux-mêmes. On ne peut rien faire d'autre que dire est-ce qu'il est plus petit, est-ce qu'il est plus grand. On ne peut pas les décortiquer. Supposons qu'on ait un algorithme qui soit linéaire, c'est-à-dire que le temps d'exécution de cet algorithme, le nombre d'opérations de cet algorithme, soit borné par A fois N. À ce moment-là, vous voyez que comme faire une comparaison entre deux éléments du tableau prend un certain temps, mettons un temps 1, vous ne pouvez pas faire un nombre de comparaisons au cours de l'exécution de l'algorithme qui soit plus grand que A fois N. D'accord ? Puisque chaque comparaison vous prend un temps 1, si vous faites P comparaison, ça vous prend un temps P, et donc le nombre de comparaisons est forcément majoré par le temps, compté en prenant comme unité le temps d'une comparaison. Donc votre algorithme, N fois, enfin A fois N fois, il va se poser la question, est-ce que, et il va répondre ou bien oui ou bien non. Et en fonction de ce qui va obtenir comme réponse, oui ou non, il va faire quelque chose ou pas. Il va permuter deux éléments, il va aller dans une branche du if, il va prendre une décision. Le nombre de décisions qu'il peut prendre, c'est A fois N. À chaque décision, c'est un choix binaire, puisqu'il compare deux éléments, la réponse est ou bien oui ou bien non. Donc vous voyez que la liste des réponses qu'il va pouvoir donner, elle, elle est bornée par 2 puissance N. D'accord ? Des permutations, il y en a combien ? Il y en a factoriel N. Or, factoriel N, ça croît plus vite que 2 puissance N. 2 puissance N, c'est 2, 2, 2, 2. Factoriel N, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc certes, le 1 était plus petit que le 2. Le 2, c'était pareil, mais 3, 4, 5, tout ça, c'est plus grand que 2. Donc ça croît plus vite. Donc il y a un moment où factoriel N est plus grand que 2 puissance N. Donc ça veut dire que le programme, il a 2 puissance N comportements possibles. Et il a un nombre d'entrées possibles qui est supérieur à 2 puissance n. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 entrées pour lesquelles le programme va faire la même chose. Il y a au moins 2 entrées, 2 tableaux que le programme ne va pas savoir distinguer. Il ne va pas assez se poser de questions pour distinguer ces 2 entrées. Il va faire exactement les mêmes opérations, les mêmes permutations d'éléments dans le tableau. Donc supposez que tous vos éléments de votre tableau initial soient différents. Mais vous voyez que le trier ces 2 tableaux demande de faire des choses différentes. Et si le programme fait la même chose, ce n'est pas un algorithme de tri. Donc, de manière générale, un algorithme de tri a une borne, sous les 2 hypothèses que j'ai données, à une complexité qui est bornée inférieurement, et le mot ici important c'est inférieurement, par log de factoriel n. Vous avez factoriel n entrées différentes, il y a une quantité d'informations dans ces entrées qui est log de factoriel n. Il faut vous poser log de factoriel n question pour savoir, pour distinguer 2 entrées, pour savoir sur quelle entrée vous avez eu. Et si vous ne vous posez pas suffisamment de questions, votre algorithme ne saura pas discriminer les entrées. Or, log de factoriel n, si vous avez fait beaucoup de mathématiques, vous devez savoir que c'est n log n. Donc, ou bien vous êtes très savant, vous connaissez la formule de Stirling, et vous savez que le log de 2 suites équivalentes sont équivalentes, ou bien, comme moi, vous savez juste que log de factoriel n, c'est log d'un produit, c'est la somme des logs. Et quand vous faites la somme des logs ici, 1, log de 1 plus log de 2 plus log de n, vous avez 99% des termes qui sont supérieurs à log de n sur 100. Oui, vous avez ici 99% des nombres compris entre 1 et n qui sont plus petits que n sur 100. C'est tous ceux qui sont compris entre n sur 100 et n. Donc, ici, vous pouvez minorer ça. Vous pouvez le minorer par log de n sur 100 et log de par log de n sur 100 et log de n sur 100 c'est log de n moins log de 100. Donc log de factoriel n c'est plus grand que 99 sur 100 n log n moins log de 100. Le log de 100 on l'oublie puisque asymptotiquement c'est le log de n qui va dominer. Donc vous voyez que log de factoriel n c'est plus grand que 99 sur 100 n log n asymptotiquement. Donc c'est moins bien comme résultat que de savoir que log de factoriel n, c'est supérieur à n log n, asymptotiquement, puisque là j'ai quand même perdu 1%. Mais vous voyez que je peux remplacer 99 sur 100 par n'importe quelle constante, et donc log de factoriel n, c'est plus grand que n log n. Donc ça veut dire que le tri fusion et le tri en tas sont optimaux, il n'y a pas d'algorithme plus rapide, sauf à jouer sur la constante. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des algorithmes linéaires sous les hypothèses qu'on s'est données. Bien entendu, il y a des algorithmes qui sont plus rapides. Comme on l'a vu, si on a des informations sur le tableau initial, donc si on sait que le tableau initial est déjà trié, c'est facile. Mais si on sait, par exemple, que le tableau initial est déjà trié sauf une permutation, ou est formé d'un élément puis du reste d'un tableau qui est déjà trié, c'est un tableau qui était déjà trié, on a rajouté un élément, dans ce cas-là, il y a des algorithmes beaucoup plus rapides. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si d'autres opérations que la comparaison sont permises, il y a aussi des algorithmes plus rapides. Par exemple, si vous prenez ce qui arrive assez souvent, des points qui sont... vous cherchez à trier par abscisse croissante des points, et vous savez qu'il y a des points d'abscisse, qu'il y a exactement un point d'abscisse 1, un point d'abscisse 2, un point d'abscisse 3, un point d'abscisse 4, etc. Comment est-ce que vous pourriez savoir ça ? Supposez que vos points, ça soit le résultat de mesure à un temps régulier. Vos points ont une certaine structure. Vous avez toutes les périodes, vous avez exactement une mesure. Alors, pour une raison que j'ignore, vos points ont été mélangés et vous cherchez à les retrier. Eh bien, à ce moment-là, vous avez un algorithme beaucoup plus simple qui consiste à dire, vous prenez le premier point, il a une abscisse 7. Vous pouvez déjà prédire qui sera dans la septième case du tableau une fois qu'il sera trié. Donc vous pouvez tout de suite le mettre dans la septième case du tableau, et puis vous récupérez le point qui est dans la septième case du tableau, et vous le mettez comme ça, à sa place. Et donc en mettant chaque élément à sa place, si vous êtes capable à partir de la structure de l'objet, c'est-à-dire en regardant son abscisse, en connaissant plus de choses sur les informations que vous triez que simplement plus petit, plus grand, eh bien vous pouvez avoir, dans ce cas-là par exemple, un algorithme linéaire. Bien, alors pour terminer, comme c'est la saison des dessins animés, on va faire une application du tri en géométrie algorithmique. Ce que je cherche à vous montrer ici, c'est que le tri n'est pas uniquement un outil qui est utile pour gérer des grosses quantités de données, donc c'est bien sûr un outil qui est utile dans ce cas-là, mais il a des applications assez surprenantes dans des parties de l'informatique tout à fait différentes. Donc, quel est le problème que je cherche à résoudre ici? C'est de partir d'un nuage de points, comme celui-ci, donc d'un ensemble fini de points, et de chercher le plus petit polygone qui contient tous ces points. Le plus petit polygone convexe qui contient tous ces points. Et ça s'appelle l'enveloppe convexe de ma famille de points. Et alors, vous pouvez essayer de faire un algorithme qui calcule l'enveloppe convexe, et l'algorithme auquel vous allez penser naturellement, il sera assez coûteux en temps. En général, ce qu'on pense, on dit on a une enveloppe convexe, on rajoute un point, on se pose la question, est-ce qu'il est déjà dans l'ensemble? Si oui, on n'a rien à faire. S'il n'est pas dans l'ensemble, on rajoute deux arêtes. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de calculer cette enveloppe convexe, c'est de faire comme ça. Vous partez de l'ensemble des points, et il faut choisir, c'est quasiment le seul truc difficile, un point qui est dans l'enveloppe convexe, mais qui n'est pas un des points de l'ensemble. Donc pour ça, une manière de faire, c'est que vous choisissez un point, vous regardez le point le plus proche de celui-ci, ça doit être celui-là, et vous prenez le milieu. Et là, vous êtes à peu près sûr que ce n'est pas un point de l'ensemble, parce que sinon il aurait été plus proche que celui-là, et il est dans l'enveloppe convexe, parce que c'est le barycentre de ces deux points. C'est le milieu de ces deux points, donc il est dans l'enveloppe convexe. Voilà, donc vous choisissez un point, ce point s'appelle le pôle, et ensuite vous reliez ce pôle à tous les points de l'ensemble. Vous voyez, le pôle là, ce n'est pas un point, il est là. Ce n'est pas un point de l'ensemble, hein, c'est ça qui est important. Pop, il était là. Voilà, donc vous avez cette famille de vecteurs. Cette famille de vecteurs, maintenant, c'est le jour d'utiliser l'algorithme de tri. Vous allez les trier par angle polaire croissant. Et donc tous vos points ici vont être triés par angle polaire croissant. Et donc vous pouvez déjà les relier dans cet ordre. Et ça vous donne un polygone qui n'est pas convexe, mais qui passe par tous les points. Ça vous a pris un temps qui était n log n. En le nombre de points. Maintenant, il vous suffit de parcourir ce chemin, et à chaque fois que vous voyez un point qui a un angle négatif ici, vous relâchez l'élastique. Pop. Donc faites attention, si vous relâchez l'élastique, ça peut vous amener à relâcher un élastique qui était juste derrière vous, mais ça reste linéaire. Donc, la phase qui consiste ici à relâcher les élastiques pour obtenir ça, eh bien, elle est linéaire. La phase qui était longue, c'était de trier les points par angle polaire croissant. Et ça, c'était quasi linéaire, c'était n log n. Et donc vous avez un algorithme qui est relativement efficace et qui vous permet de faire ça sur un grand nombre de points. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire ça avec un panda qui fait du kung fu et vous devenez milliardaire.